Petit extrait du livre, Du moulin à prière à la dynamo spirituelle. Tome 1. Ou la machine à fermenter Kundalini. Dr. Francis Lefebure. Édition Phosphénisme. Kundalini est-elle la plus profonde, et la plus mystérieuse des forces de l'univers, la plus puissante, la plus terrible? Seuls quelques grands initiés, qui se cachent dans l'immensité de l'Asie, possèdent-ils la technique de son éveil, et de son maniement très dangereux pour les autres? Existe-t-il réellement des gourous, qui attendent patiemment les élèves, assez évolués, pour recevoir leurs enseignements, que la majorité de l'humanité, n'est pas encore digne de connaître? Non, répond le docteur Francis Lefebure. Ce qui est dangereux, ce sont les procédés, qui n'ont rien à voir avec ce qu'agit effectivement sur cet éveil de Kundalini, mais, qui sont mêlés par routine, et manque de discernement, aux éléments nécessaires et suffisants, pour provoquer son éveil. Par comparaison, il en a été de même, pour l'immunothérapie préventive, laquelle, sous une forme rudimentaire existait en Afrique, avant l'arrivée des Européens. Il existait des tribus dites d'hommes serpents, qui se montraient dans les foires, pour prouver qu'ils pouvaient se faire mordre par des serpents venimeux sans en mourir. Le procédé était un secret initiatique. Il consistait à couvrir le corps de multiples scarifications, sur lesquelles, on appliquait un mélange d'ingrédients, dont des têtes de serpents écrasées. Ces populations ne savaient pas que, seulement le venin du serpent, était utile pour une mitridatisation, immunisation progressive, ce qui rendait la méthode douloureuse et dangereuse. De même, lorsqu'on a compris ce qu'est cette force, dont l'éveil est le but du yoga, on réalise que Kundalini est une chose très simple, très bénéfique, sans danger, facile à provoquer, contrairement au dogme périmé dû à des interprétations occidentales hâtives. Lorsqu'on a élagué toutes les pratiques inutiles pour éveiller cette force, il reste alors un principe applicable de bien des façons différentes, mais parmi lesquelles celle qui s'est montrée la plus rapidement efficace est la machine à faire monter Kundalini, le gyroscope. Le docteur Lefebure précise comment chacun peut se construire cet appareil, qui permet de provoquer l'éveil de Kundalini, en une ou deux semaines, à raison d'une heure d'utilisation par jour. En ce court laps de temps, la puissance de cet éveil, est en général suffisante, pour que se produisent les effets classiques de la montée de cette force, ressentie dans la colonne vertébrale, provoquant une illumination, lorsqu'elle atteint la tête, engendrant une foule d'expériences spirituelles curieuses et réconfortantes, de telle sorte que l'expérimentateur, ne peut plus douter que c'est le vrai Kundalini qu'il a en lui. Le résultat est absolument convaincant. Le sujet est libre alors d'arrêter là son entraînement, ou de pousser plus loin son développement avec cet appareil. Il est évident que cette affirmation, va provoquer au début de vives controverses dans tous les milieux, qui s'intéressent au yoga, à la théosophie, à l'hindouisme. Mais, cette fois-ci, il n'y aura pas de quartier. C'est l'une ou l'autre des deux conceptions, qui l'emportera définitivement et totalement, assez rapidement. Kundalini, force difficile à réveiller, et dangereuse ou Kundalini, force qu'il est très simple de réveiller, très bénéfique et sans aucun danger. Le débat est ouvert. Introduction. Grand 1. Difficulté de manifester la lumière intérieure. Dans les régions centrales du Soleil, la pression est tellement forte, qu'elle arrache les électrons, qui gravitent autour des noyaux d'atomes. Comme ces derniers sont beaucoup plus petits que l'atome lui-même, il en résulte que, malgré la pression et la densité, il y a beaucoup de vide entre ces noyaux, qui d'ailleurs se repoussent les uns les autres, parce qu'ils s'entrechoquent à cause de la très haute température. Les espaces vides entre ces noyaux d'atomes, qui s'agitent, restent donc considérables, ce qui explique que la lumière puisse y circuler facilement. L'intérieur du Soleil est donc très vraisemblablement transparent. Plus on approche du centre de l'astre, plus la pression devient forte, ainsi que la chaleur. Les noyaux d'atomes prennent dans cette région une telle vitesse qu'ils se brisent les uns sur les autres. Ils libèrent alors une énergie considérable, dont une très grande part est sous forme de lumière. Dans les deux tiers internes du Soleil, circule donc une quantité de lumière fantastique, inconcevable pour notre imagination. Mais, Dans le tiers externe du diamètre du Soleil, la température et la pression sont telles que des atomes ont pu se reformer avec leur cortège d'électrons. La lumière peut alors d'autant moins traverser cette couche qu'elle est évidemment très épaisse. Ainsi le tiers externe du Soleil est opaque à la lumière qui s'est formée dans ses profondeurs. Celle-ci y reste donc prisonnière. Cependant, son énergie cherchant à s'évader à travers cette couche opaque s'y transforme en chaleur, cause de tourbillons, et même d'une véritable ébullition. Ces bulles viennent à éclater à la surface du Soleil, formant ce que l'on voit au télescope sous le nom de grains de riz en surface. Ces bulles explosent une dizaine de minutes après leur arrivée dans la zone observable. L'explosion de ces bulles et divers mouvements de convection très violents engendrent alors des ondes sonores si puissantes que la pression dans la face positive de ces ondes sonores est suffisante pour engendrer une température qui rend les gaz lumineux. C'est cette lumière, créée par des sons, lumière que l'on pourra appeler de deuxième génération, qui nous parvient de l'astre du jour. C'est par la puissance des vibrations acoustiques à sa surface que notre luminaire devient brillant. On est bien certain qu'il s'agit d'ondes sonores, car on a pu suivre au télescope la propagation de certaines de ces bandes de compression, propagation qui se fait à la vitesse du son dans les gaz à cette température. Par ce processus compliqué, la lumière de première génération, au centre du Soleil, met des centaines de milliers d'années pour être transformée en la lumière que nous recevons, de deuxième génération. Du moins, telles sont les conceptions actuelles de l'astronomie. Il en résulte que, lorsqu'une étoile se forme, par l'agrégation de matière, sous l'influence de la pesanteur, jusqu'à ce que son poids devienne tel qu'il engendre la pression nécessaire au craquement des noyaux d'atomes en son centre, elle reste longtemps apparemment obscure. Car il faudra des milliers d'années, ou des centaines de milliers, certains disent un million, pour que cette lumière de première génération engendre celle de deuxième génération en surface et qu'alors seulement un astre nouveau brille au firmament. Mais, à partir du moment où cette pile atomique intérieure s'est formée, un observateur percevrait, dans la pénombre des espaces célestes, une bien étrange agitation sur la surface de cet astre encore obscur, par rapport à ce qu'il était avant. Il résulte de l'ensemble de nos recherches antérieures que l'on peut appliquer à la vie intérieure et, plus particulièrement aux effets des entraînements spirituels, les lois générales de la physique, tant celles des vibrations que de la mécanique des fluides et par conséquent, de l'astronomie. C'est donc d'une façon comparable à ce que nous venons de décrire que, de tout temps, il y a eu des êtres humains qui affirmaient être parvenus à percevoir une lumière intérieure d'une intensité indescriptible, présence pourtant très agréable à ressentir et d'une grande beauté. Mais il y a loin de la coupe aux lèvres. Cette lumière s'est bien souvent traduite à l'extérieur seulement, par des remous étranges, parfois par un mélange de traits de génie et d'actes de démon ou par des discussions qui durent, à propos de certains de ces illuminés, depuis des millénaires, sur la valeur de leurs paroles et de leurs actes. Aucun de ceux-ci, cependant, n'a analysé jusqu'à présent suffisamment en détail le mécanisme par lequel cette illumination s'était produite pour la rendre facilement accessible à d'autres. Néanmoins, l'étude d'une jeune science passionnante et admirable, la magnéto-hydrodynamique nous a permis des rapprochements analogiques avec la méthode d'illumination nommée éveil de Kundalini dans le yoga indo-tibétain et les effets de cet éveil qui sont décrits dans les textes classiques antérieurs à l'arrivée des Européens. Ce rapprochement nous a permis de mettre en évidence quelques principes qui conduisent à la construction d'appareils de degrés de complexité croissante et qui associent à la méditation appropriée, permettent le véritable éveil de Kundalini en quelques jours, avec tous les effets décrits dans les textes sacrés orientaux, et fait tous bénéfiques, donc sans aucun des éléments néfastes et des risques vagues de danger que l'on se garde bien de préciser, et qui ont été attribués, après coup à cette montée de Kundalini par une littérature occidentale hâtive et superficielle, mais qui actuellement, comme tous les dogmes, fait recette. La technique que nous allons décrire dans le présent ouvrage est donc absolument sans danger, efficace d'une façon certaine en quelques jours, et apporte d'immenses bienfaits dans une foule de domaines. D'après les indications que nous donnerons ici, chacun pourra se construire une machine à fermenter Kundalini, au moins dans sa version la plus simple, en attendant que nous puissions construire en série des appareils plus perfectionnés. Donc, le présent opuscule non seulement donne le principe de la construction de ces appareils, mais ouvre une possibilité infinie de recherche. Pour les personnes qui ne connaissent pas les traditions orientales sur Kundalini, disons que c'est une force dont on a pleinement conscience lorsqu'elle se manifeste. Elle produit même divers états de superconscience, que l'on appelle parfois très justement état hypervigile. Cette force revêt fondamentalement un aspect tourbillonnaire. Elle apparaît à la partie inférieure du tronc, à environ 1 ou 2 cm au-dessus du milieu du périnée, puis elle s'élève. Dans certaines descriptions, cette ascension se fait en hélice autour de l'axe vertical du corps, passant par le centre de gravité, sur un sujet debout, en position correcte. On prend facilement conscience de la ligne virtuelle qu'est cette verticale. Selon d'autres descriptions, elle monte à l'intérieur de la colonne vertébrale, en suivant ses sinuosités. Cette dernière description est particulièrement étrange, car normalement on ne perçoit pas cet organe, et si ce n'est très légèrement, parfois aux articulations dans certains mouvements un peu forcés et, à la peau, par les apophyses épineuses des vertèbres, qui pointent un peu. On a beau se concentrer sur ces sensations, on ne sentira guère davantage sa colonne. Mais, dans un certain aspect de la montée de Kundalini, que nous avons pu reproduire par les expériences que nous allons décrire, on perçoit quelque chose d'extraordinaire, une force qui paraît surnaturelle, tout le long de l'intérieur de la colonne vertébrale. C'est ce que certaines de nos expériences que nous allons décrire ont provoqué alors que nous ne le cherchions pas. Nous sommes donc bien en présence du vrai Kundalini. La montée du Kundalini est décrite comme mettant en mouvement les chakras, c'est-à-dire les organes principaux du premier des corps subtils, appelés corps éthériques. Or ce mouvement est une rotation, un tourbillon. Il ne s'agit donc que de localisation particulière de cette force de Kundalini, véritable tourbillonnement de l'esprit. Nous avons dit que cette force s'élève d'un mouvement hélicoïdal. Retenons-le bien, c'est très important pour nos expériences et nos explications des effets qu'elle produit lorsqu'elle atteint la tête. Il survient un état d'illumination intérieure, purification des pensées et des sentiments, et simultanément des pouvoirs mentaux, tels que la possibilité de voir dans un monde spirituel des âmes de décédés, ou celle des auras, de personnes vivantes, ainsi que de percevoir dans l'avenir certains événements qui se préparent. Bref, d'être ce qu'il est convenu d'appeler un initié. Or, nous estimons avoir suffisamment précisé le mécanisme de l'éveil de Kundalini, pour que tous ceux qui le désireront, après avoir construit un appareil assez simple, puissent, en quelques jours, avoir un certain degré de cette initiation. On est d'ailleurs largement effaré de penser aux transformations qui surviendront dans l'humanité dès qu'un nombre un peu important de personnes aura vérifié ces assertions. En un sens, le présent ouvrage est la continuation du livre Le Pneumophène, ou La Respiration qui ouvre les portes de l'au-delà, et plus particulièrement de son chapitre 4, La Respiration Cyclogène, où est décrite la meilleure de toutes les méditations associées aux exercices respiratoires indiqués dans ce livre. Il y aura donc avantage à associer les exercices analysés dans le Pneumophène à ceux que nous allons étudier maintenant. En tout cas, il est bien évident que la pratique de la dynamo spirituelle ne peut que renforcer la méditation que nous indiquons dans le Pneumophène comme essentiellement liée aux exercices respiratoires initiatiques. Néanmoins, ce livre du moulin à prière et la dynamo spirituelle forme un tout à lui seul, et il n'est pas indispensable d'avoir lu le Pneumophène pour comprendre ce nouvel ouvrage. Autre petit extrait. Grand E. Kundalini. Clonus de la pensée. Kundalini n'est pas toujours décrit comme un mouvement tourbillonnaire de l'esprit, mais parfois comme une vibration qui s'élève avec un crépitement, ou comme un courant de bulles. Mais le trait commun entre toutes les descriptions de Kundalini, c'est qu'il est constitué essentiellement par un mouvement rythmique de la pensée, sans intervention de la volonté. C'est un automatisme conscient de l'imagination. Or, il existe des automatismes conscients dans le corps physique, sorte d'exagération des réflexes nommés clonus. Le plus simple est la trépidation du membre inférieur, si l'on est assis, la pointe du pied par terre, le talon soulevé. On peut alors lancer son genou, en un mouvement qui continue presque tout seul, c'est-à-dire avec une intervention, infime de la volonté. Cela ne gêne pas pour travailler intellectuellement en même temps. Au contraire, cela aide plutôt, mais à condition que l'on respecte le rythme naturel de l'organisme. Mais, à un rythme plus lent ou plus rapide, c'est impossible et même pénible. De même, chez certains sujets, il existe un clonus de la rotule. Le membre inférieur est entendu, en appuyant par en haut sur la rotule, d'un coup sec et en maintenant la pression, elle va se mettre à monter et descendre sur un rythme régulier assez rapide. Parfois, le même phénomène peut être obtenu sur le pied. Si cet automatisme conscient se manifeste dans la pensée, on a l'impression qu'une force déferle dans la conscience, sans que la volonté l'ait cherchée. Il s'agit alors de clonus de la pensée. Ceci répond tout à fait à l'aspect neurologique de Kundalini, toutes les méthodes rythmiques utilisées classiquement, pour le réveiller, favorisant prodigieusement l'apparition d'un clonus au niveau cérébral. C'est là, nous disions, l'aspect neurologique de Kundalini, mais cela ne retire rien à l'aspect cosmologique et religieux, que nous verrons au dernier chapitre, ni à l'utilité du phénomène, qui, comme tout rythme dans le système nerveux, libère des quantités énormes d'énergie, par synchronisation. Encore faut-il apprendre à les diriger vers les régions supérieures de sa personnalité. Fin des extraits. Retrouvez l'intégralité du livre audio, sur le site phoenisme.com.